Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qui a mis KO les MOOC? En 2018, il ne devrait plus être nécessaire d'expliquer ce que sont les MOOC, car ils devaient conquérir la planète et révolutionner le monde de l'éducation. C'est en tout cas la promesse qui était la leur lorsqu'ils furent lancés au début de la décennie, d'abord en Californie avant d'arriver en France quelques mois plus tard. Alors visiblement, l'enthousiasme est retombé et les définir n'a rien de superflu. Alors un MOOC, c'est un cours en ligne ouvert à tous, Main Open Online Course. Il permet d'accéder à distance via Internet à des enseignements de haut niveau, notamment universitaires. Dans le monde des MOOC, pas de problème d'amphi surchargé, pas de Parcoursup théoriquement. Tout le monde y a accès. Sauf que de la théorie à la pratique, il y a comme toujours un écart. Les promesses de démocratisation d'accès à l'enseignement et de renouvellement de la pédagogie n'ont, semble-t-il, pas été entièrement tenues, comme en témoigne le profil des utilisateurs et la difficulté à les fidéliser. Alors, qui a mis KO les MOOC? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Jean-François Balaudet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en philosophie. Vous présidez l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et vous animez vous-même un MOOC intitulé « Philosophie et mode de vie ». Philosophie et mode de vie, c'est bien le terme. Oui, c'est ça. Guillaume Carnino est notre deuxième invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire des sciences et techniques à l'université de technologie de Compiègne. Vous avez notamment publié, c'était au Seuil en 2015, L'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel. Et puis notre troisième invité, Mathieu Cizel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Vous êtes l'auteur du blog La Révolution MOOC, qui est hébergé sur le site educpro.fr. Et vous avez par ailleurs consacré votre thèse à ce sujet.
Être diplômé d'Harvard, Stanford, Polytechnique ou encore la Sorbonne, tous les étudiants en rêvent. Désormais, ils peuvent suivre les cours de ces prestigieuses universités sans jamais y mettre les pieds grâce au MOOC. Et un MOOC, voilà à quoi ça ressemble, un cours délivré sur Internet.
En entrée, nous avons un objet empoussiéré.
D'un côté, l'enseignant. Et de l'autre, l'étudiant. Une leçon magistrale avec schémas et documents à l'appui.
Voilà, de la façon dont on parlait des MOOC, parce que le journaliste parlait de MOOC plutôt que de MOOC. On était en octobre 2013 dans le journal de 20h de France 2, Mathieu Cizel. On est au début de l'arrivée justement de ces nouveaux outils pédagogiques. En France, en tout cas, parce que ça date déjà de quelques mois, de longs mois même, déjà aux États-Unis. Vous aviez donc, vous avez baptisé votre blog la Révolution MOOC. Est-ce que le terme révolution vous paraît toujours adapté aujourd'hui?
Clairement non, mais c'était l'enthousiasme du moment. On était d'ailleurs ce MOOC là qu'on vient d'entendre parler, c'était le MOOC gestion de projet de Centrale Lille. On était dans les premiers MOOC, on avait un enthousiasme qui était partagé à l'échelle mondiale. Et même si on savait qu'évidemment ce serait pas à la hauteur de nos espérances les impacts, on pensait vraiment qu'il y aurait un bouleversement profond. Maintenant, j'appellerais plus ça la révolution MOOC, clairement.
Qu'est-ce qui fait que votre enthousiasme a été un petit peu refroidi? Est-ce que c'est parce que vous êtes rendu compte? Et est-ce qu'on peut d'ailleurs se rendre compte avec les études et les statistiques que les MOOC ne touchent pas autant le public qu'on imaginait qu'ils le feraient?
Oui, d'ailleurs ma thèse était sur ça, sur les statistiques qui étaient derrière les MOOC, une approche un peu quantitative. Et c'est vrai que quand on regarde l'écart entre l'enthousiasme, les investissements qui ont été faits, et le retour en termes d'apprentissage, c'est clair que ça. Certains, il y a eu des bonnes réussites quand même, il faut le souligner, qui ont complètement légitimé l'enthousiasme qui a été mis dedans. Mais c'est vrai que si on raisonne à l'échelle systémique, la gratuité a disparu presque partout dans le monde. Quasiment en France, on est un des rares pays où il y a encore des MOOC avec des certificats gratuits. Enfin, il y a eu une régression, une fermeture peu à peu. Les plateformes comme Coursera et EdX, les grandes plateformes américaines, désormais ont quasiment clos leur modèle MOOC.
Alors on parle d'une époque qui n'est pas si lointaine, hein, c'était il y a 5 ans. Est-ce que vous, Guillaume Carnino, à l'époque, vous partagez le même enthousiasme que Mathieu Cizel, ou bien est-ce que vous êtes déjà assez sceptique sur ce nouveau modèle que représentent les MOOC?
Alors, par nature, en tant qu'historien, j'aurais envie de dire, on peut rechercher un petit peu la longue durée, et de ce point de vue-là, j'étais évidemment tout à fait sceptique, puisque ce techno-optimisme, notamment pédagogique, pas que, on peut en parler, mais ça va au-delà, mais en tout cas, le techno-optimisme pédagogique a une histoire. Hein. En 1878, Alfred Molteni, fabricant de lanternes magiques, à gaz, les ancêtres de nos PowerPoint, hein, en quelque sorte, écrit un peu triomphalement, en projetant, on facilite l'enseignement, cela permet de mettre de la variété, instruire en s'amusant, c'est ouvrir l'esprit de l'élève, lui donner envie d'aller au-delà de ce qu'on enseigne. Quelque quelques années plus tard, en 1913, Thomas Edison, entrepreneur et véritable fondateur d'une industrie de l'invention, hein, c'était vraiment une invention industrialisée qui mettait en œuvre, il claironne « Bientôt les livres seront obsolètes dans les écoles, nous retirons environ 2% d'efficacité de nos livres scolaires », je ne sais pas comment il avait réalisé ses calculs, « par l'image animée, le cinéma hein, en l'occurrence, il devrait être possible d'obtenir 100% d'efficacité pédagogique ». Alors je ne sais pas ce que c'est 100% d'efficacité pédagogique, mais c'est ce que vantait Thomas Edison. Ces divers éléments, je les tire notamment d'un ouvrage de Philippe Biwix et Karine Movilly sur l'école numérique. Je vous invite d'ailleurs à éventuellement y jeter un œil. C'est très édifiant puisque l'histoire continue. Hein. Dans les années 1930, on vante la radio qui fait enfin entrer le monde dans la salle de classe et rend universellement disponible les services des meilleurs professeurs. C'est quasiment le même discours que celui qu'on a trouvé à l'origine des MOOC. On peut passer les déboires.
On va peut-être pas tous les faire, mais enfin, en tout cas, voilà. L'idée, c'est qu'il y avait de nombreuses révolutions pédagogiques qui ont été annoncées sur ce modèle des MOOC, et finalement, non seulement peut-être les MOOC n'ont rien inventé, mais n'ont rien révolutionné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-François Balaudet? Votre premier avis, votre première analyse sur ce que représentent les MOOC aujourd'hui, 5 ans après cet énorme enthousiasme?
Bah, écoutez, tout dépend des ambitions que l'on se donne au départ lorsque on s'intéresse aux MOOC ou qu'on prétend en produire. Je ne suis pas déçu par les MOOC, ce que nous avons pu faire, ce que nous continuons à faire, dans la mesure où l'objectif initial que j'avais, qui avait motivé l'engagement de Paris Nanterre dans cette aventure, c'était non pas de mettre en place des cours diplômants massifs, non. C'était de proposer des cours construits, effectivement, diffuser un ensemble, en direction d'un ensemble considérable d'apprenants, hein, comme on peut dire. Donc c'était cette possibilité de toucher des milliers de personnes en produisant un cours d'histoire, un cours de philosophie, un cours d'économie, qui me paraissait très intéressant, comme une contribution à la diffusion de la culture scientifique au meilleur niveau, pour le plus grand nombre, dans une forme de désintéressement qui est aussi finalement dans l'esprit de la recherche scientifique et des devoirs que nous avons en termes de diffusion des connaissances. Donc on était parti en 2014, donc des pionniers sur FunMOOC avec un projet.
Alors FunMOOC, faut rappeler, c'est Fun pour France Université Numérique. Voilà, ça a été lancé comme par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. En tout cas, voilà, sous son patronage.
Hein. C'est ça. Et c'était pour nous important parce que je m'intéressais à ce que je voyais se réaliser outre-Atlantique et je me disais tiens, ça serait intéressant qu'on teste ça pour aller très très loin dans la diffusion de nos savoirs. Et puis voilà que le ministère de l'Enseignement supérieur décide de se lancer dans l'aventure, d'embarquer la France en somme dans cette aventure et créer la plateforme FunMOOC. Donc on a testé la chose et voilà, pour les raisons que nous ne souhaitions pas diplômer mais diffuser du savoir, nous avons finalement eu des résultats à la hauteur de ce que nous espérions. La philosophie.
Il y a des résultats justement aujourd'hui. L'université de Nanterre propose combien de MOOC et pour quel nombre d'étudiants? Je sais pas si c'est comme ça que vous les appelez d'ailleurs.
D'apprenants, si on veut être un peu plus prudent. Justement, c'est peut-être important de distinguer l'étudiant au stricto sensu inscrit dans un cursus avec une visée de diplomation et puis, vous voyez, l'apprenant, catégorie un peu plus large. Ben, si vous voulez, on en a produit 4 et on est en train d'en produire 2 supplémentaires et on va participer à 2 autres avec des partenaires dont je peux reparler. Les 4 que nous avons produits ont été suivis par entre 10 et près de 30 000 apprenants. Philosophie et mode de vie avaient réuni 26 000 apprenants, donc c'était assez formidable de se dire que on diffusait des savoirs au top niveau, hein, je crois, en philosophie ancienne auprès de tant d'apprenants. Ça, c'était au fond l'opportunité. Ça s'est vérifié et ça continue à être le cas.
Alors élargir l'accès au savoir, c'est vrai que ça faisait partie, en tout cas ça fait même d'ailleurs sans doute toujours partie des promesses des MOOC, Mathieu Cizel, avec l'idée de cette démocratisation de l'accès au savoir. Que disent justement peut-être les statistiques sur ce sujet? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne à la hauteur des espérances?
Un des problèmes, c'est qu'il y a un peu des inflations de chiffres qui sont dues à des comportements sur Internet où, bah, quand c'est gratuit, je parcours la plateforme de MOOC, il y en a 3-4 qui m'intéressent et dans 40 secondes, je suis inscrit à 5 cours. Ça ne veut pas du tout dire que je vais même ne serait-ce qu'ouvrir la première vidéo de chaque cours.
Je confirme que ça va très vite. Hein. J'ai testé cet après-midi. l'après-midi, et c'est rapide.
Et voilà, et du coup, ce qui fait qu'en fin de compte, rien que la personne qui va simplement se connecter au cours, ne serait-ce que pour voir si la vidéo l'intéresse, on divise par deux ou par trois les chiffres d'inscription. Et en fin de compte, effectivement, il y a des MOOC où même en ayant cette déperdition, finalement, ça reste intéressant. Parce que c'est vrai, quand on a plusieurs dizaines de milliers d'inscrits, en fin de compte, ne serait-ce que si on a plusieurs milliers de personnes qui vont suivre un cours, c'est toujours plus que plusieurs centaines. Mais dès qu'on passe à des échelles inférieures, en fin de compte, parfois on arrive à des échelles avec souvent des MOOC à 2-3 000 personnes, ça veut dire des 400-500 personnes qui le commencent, parfois 50-60-100 personnes qui le terminent. Quand on voit qu'un cours, ça peut coûter 50 000 euros, bah finalement, il y a des cas dans lesquels le présentiel est presque plus rentable. Et en fin de compte, il faut raisonner au cas par cas. C'est pour ça qu'il faut être attention avec le techno-optimisme. Faire attention à ça, parce que, fin de compte, on ne peut pas juste généraliser des raisonnements comme quoi le numérique fait baisser les coûts.
Sur cette promesse, justement, de la démocratisation de l'accès au savoir, Guillaume Cardinaux, c'est vrai que c'était quand même assez tentant de voir dans cette diffusion justement par le numérique d'un certain nombre d'apprentissages et de savoirs, la possibilité pour ceux qui n'ont pas forcément un accès simple à l'université, d'avoir justement accès à ces contenus.
Il y a eu quelques études qui ont mis en scène le fait que 80% des utilisateurs étrangers de MOOC américains sont issus des 6% des résidents les plus riches au Brésil, en Inde, en Russie, en Chine, en Afrique du Sud. Ce sont des chiffres de 2013. Donc ce genre de choses montrent que la démocratisation n'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'au fond, il y a un raisonnement qui est en partie spécieux et sans doute peut-être un peu naïf. Je ne sais pas jusqu'où c'est assumé ou instrumentalisé par certaines personnes. Mais en tout cas, cette idée que l'enseignement, l'éducation plus généralement, mais déjà l'enseignement, c'est une question d'accès. Je crois que l'appropriation de connaissances, c'est pas du tout une question d'accès. Sinon, il y aurait même pas besoin de MOOC. Il suffirait de lâcher des étudiants dans des bibliothèques avec des milliers de livres et puis hop, les gens, ils apprendraient comme ça. Ce serait idéal. Mais je crois qu'en effet, la question de l'enseignement, elle dépasse très largement celle de l'accès. C'est aussi celle de l'attention conjointe.
On va dire que ça ne suffit pas, mais c'est quand même une condition sine qua non.
Exactement. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Si on n'y a pas accès, évidemment, il n'y a pas de débat. Mais, dire, on donne accès aux gens, il suffit pas de ça. Mais on peut donner un livre qui va traiter, je sais pas, de la théorie des cordes. Je vais pas en faire grand chose, personnellement, Donc, il faut qu'il y ait des médiations. Il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui opèrent pour que se produisent. Et il me semble que l'un des éléments importants, c'est l'attention conjointe. Historiquement, le dispositif qu'est l'amphithéâtre, il advient à la Renaissance en réinvestissant certaines connaissances acoustiques issues de l'Antiquité. Et au départ, c'est quoi? C'est qu'on fait une dissection d'un corps et pour des connaissances anatomiques, comme ça, tout le monde peut y assister. Et donc, c'est véritablement un dispositif technique de création d'attention conjointe. Et ça, je pense que le numérique, par défaut, on a fait comme si ça pouvait le faire facilement, alors que c'est pas du tout simple. Et ça peut même, jusqu'à un certain point, le mettre à mal.
Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Cizel? Cette attention conjointe, elle est compliquée à trouver dès lors qu'on se trouve à distance et qu'on apprend des choses avec un MOOC?
C'est sûr que penser qu'on peut se débrouiller et faire des études sans la médiation d'une équipe, ça fait vite long feu. C'est pour ça que, pour moi, le modèle des MOOC avait vocation à être réintégré dans l'université, à être utilisé, entre guillemets, comme une ressource. En tout cas, ça aurait été l'idéal. Un bon facteur de succès, c'est que chaque cursus ait une partie de ses ressources qui soit fondée. Je vais sortir, enfoncer une porte ouverte, mais la pédagogie inversée, ce genre de format. Alors, ça existe en partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de MOOC, en tout cas que j'ai vu, qui sont intégrés dans des cursus. Après,
c'est la pédagogie inversée, alors je résume à l'extrême, c'est en gros, disons qu'on tout ce qui est de l'ordre du contenu du cours, on l'a à domicile, et tout ce qui est de l'ordre des exercices et de la réflexion sur les contenus, on le fait avec l'enseignant.
C'est ça, si on caricature, parce que quand même, dans les faits, on fait toujours...
Faudrait faire une émission entière.
C'est ça, dans l'ensemble, il y a toujours quand même besoin d'une partie de cours en présentiel. Mais c'est cette idée de faire beaucoup de magistral en numérique, qui est une idée, à mon avis, qui n'a pas vocation à être utilisée pour tout, ne serait-ce que pour les cours qui sont trop obsolescents, en fin de compte, pour pouvoir légitimer qu'on les numérise. Mais en tout cas, pour un certain nombre de cours, oui, c'est intéressant. Et finalement, ça existe, mais c'est encore dans toutes les grands états, beaucoup d'établissements, il y a ce genre de dynamique, mais c'est encore trop marginal.
Jean-François Ballaudet.
Oui, alors ça m'inspire, nos échanges m'inspirent beaucoup de choses. Je parlerai volontiers de la pédagogie inversée ou des cours hybrides, mais avant d'en parler, sur la question du MOOC lui-même, Mathieu Cizel a raison, il y a beaucoup de déperditions, c'est un fait. Je dirais, pour défendre
l'idée, parce qu'elle elle me semble quand même intéressante. Le MOOC, c'est pas simplement du cours filmé. Il y a une scénarisation, donc il y a une recherche de captation de d'intérêt hein, d'un public qui peut s'évaporer très vite. Et donc là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Le spécialiste sort un petit peu de son cadre habituel et il s'expose au risque d'être déserté immédiatement. Il s'adresse à il ne sait pas qui et il essaie de capter l'intérêt de l'apprenant sur ceci ou cela. Donc cette dimension de
scénario... Mais ça demande un effort supplémentaire que lorsqu'on est un enseignant et qu'on se retrouve par exemple dans un amphi face à des élèves, parce que les élèves peuvent aussi discrètement sans doute mais partir et quitter l'amphi.
Oui, bien sûr, mais très honnêtement, c'est tout autre chose et il y a un certain confort à donner un cours à un amphi. Les grands enseignants peuvent fasciner un amphi. Généralement, ils provoquent des sentiments mêlés dans l'auditoire et un certain nombre conduisent plus ou moins effectivement les amphis à être désertés. Donc je n'ai pas le même sentiment sur l'amphi. Pour moi, l'amphi physique a quand même un peu vécu. Et là encore, hein, pour faire quand même la défense du MOOC, ce qui est intéressant, c'est l'idée d'apprentissage entre pairs. Au fond, on met des milliers de personnes ensemble qui apprennent et on est dans une idée de pédagogie active qui n'est pas du tout inintéressante. C'est-à-dire que les apprenants peuvent réagir, discuter entre eux sur le cours, ils peuvent avoir s'adresser à l'enseignant. Il y a beaucoup de tests de connaissances et donc on est dans une démarche curieusement, éventuellement, j'ose le dire, beaucoup plus implicante pour l'apprenant qui joue le jeu que nous ne sommes capables de le faire dans certains formats en présentiel.
Mais pour prendre votre cas particulier, Jean-François Balaudet, donc vous avez un MOOC philosophie et mode de vie, vous êtes enseignant, enfin aujourd'hui vous dirigez l'université de Paris Nanterre, mais en quoi ça modifie par exemple votre façon d'enseigner? C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand vous enseignez un savoir dans un MOOC de différent par rapport à ce que peut être un cours en amphi?
En vérité, alors c'est vrai que vous le soulignez, c'est un peu, disons, frustrant. Je ne peux pas aujourd'hui, compte tenu des charges qui sont les miennes, enseigner en présentiel et donc tester ce qui, après l'expérience du MOOC, pourrait conduire à modifier ma pédagogie. Mais je dirais plutôt, alors là, d'emblée, disons, la réponse que j'ai envie de vous faire est que j'utilise le conditionnel, mais j'utiliserai volontiers, vraisemblablement, des supports de numériques, hein, des séquences filmées, scénarisées, pour appuyer un travail en cours, en séance physique, enfin, selon les idées de pédagogie inversée. C'est vraisemblablement le bénéfice que j'en tirerai. Un enseignant qui s'implique beaucoup dans son enseignement se doit de chercher de capter l'attention de son auditoire. Donc il s'adapte à son auditoire qui peut être plus ou moins savant, qui peut être débutant. Le licence 1 n'est pas le master 2. Et le MOOC a ceci d'intéressant qu'il consiste à dire au fond vous pouvez avoir une variété infinie en réalité socialement. C'est cadré, c'est pas n'importe qui s'inscrit à un MOOC, mais imagine comment tu pourrais t'adresser à un public très très vaste pour capter son attention et le faire progresser dans tel ou tel domaine dont tu es spécialiste.
Guillaume Cardinaux, vous êtes enseignant, vous êtes maître de conférences, est-ce que ça n'est pas intéressant justement quand on est un professionnel de l'éducation que de se retrouver confronté à de nouveaux outils et du coup d'être amené à repenser sa manière aussi de faire de la pédagogie en essayant justement de capter cette attention qui est en tout cas semble-t-il plus compliquée à capter quand on est dans le cadre d'un MOOC que quand on est dans le cadre d'un cours magistral.
Alors je crois que vous avez employé le terme crucial qui est capter l'attention, enfin l'expression cruciale. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'économistes qui travaillent sur ces questions. Il y a une véritable économie de l'attention qui a été mise en œuvre dans l'univers du numérique et on pourrait même parler d'une certaine guerre de l'attention. J'ai certains collègues et même des étudiants qui depuis sont devenus enseignants avec qui j'échange régulièrement qui m'ont fait état du fait que, bah oui, à un moment donné, quand on fait un cours, que ce soit, c'est sans doute décuplé quand on n'est pas en présentiel, mais même en présentiel, faire un cours, c'est lutter contre un certain nombre de prothèses numériques qui sont utilisées en permanence. Pour regarder WhatsApp, pour regarder je ne sais quoi sur son smartphone, ce genre de choses. Et donc dans ce cadre-là, il me semble que le numérique peut être une porte d'entrée pour des contenus bien autres aussi, que évidemment ça produit cette liberté immense, mais face à cette liberté immense, il y a une dimension, moi je prétends pas faire des cours totalement et uniquement rébarbatifs, mais je pense que jusqu'à un certain point, il y a toujours un effort dans l'accès à une connaissance, et que ça en passe par quelque chose. Je défends pas un chemin de croix, hein, faut pas exagérer, mais disons qu'on en passe toujours par quelque chose qui demande une certaine fermeture à d'autres choses pour pouvoir rentrer dans ces contenus qui normalement sont assez délicats et assez difficiles.
Et c'est avec et, les MOOCs, ça n'est pas possible.
Bah, je dis pas que c'est pas possible, mais disons que sur la même interface, j'ai toutes les conversations avec mes amis pour aller boire un verre le soir, les nouvelles de ce qui m'intéresse sur tel ou tel flux et je ne sais quoi encore, et par ailleurs le cours qui continue à parler, bah c'est très facile de mêler ces différentes interfaces ensemble. Quand je suis face à un professeur en amphithéâtre, je peux toujours sous le bureau être en train de regarder mon téléphone, mais voilà, disons qu'il n'y a pas ce même dispositif qui produit physiquement même, tout simplement, cette incitation à une forme d'attention conjointe. Donc je dis pas que le MOOC ne peut jamais marcher, mais je dis que dans l'univers actuel qui est une guerre économique de l'attention, eh bien c'est pas forcément toujours si simple.
Et j'imagine, Mathieu Cizel, que cette réflexion-là pour capter et garder l'attention, elle existe dans le milieu des MOOC. Est-ce qu'il y a justement des exemples peut-être d'innovations qui ont fait leurs preuves et qui permettent justement de démontrer qu'on peut aussi conserver une attention longue, durable, avec un véritable effort du côté des apprenants?
Ouais, je suis dans l'ensemble assez... évidemment, il y a des choses qui peuvent faire perdre l'attention, un problème de technique dans la vidéo, du son de mauvaise qualité. Mais de manière générale, si on pense en termes positifs, je suis pas très favorable à tous les systèmes un peu gadget pour maintenir l'attention, que ce soit la gamification, ludification, des petits badges quand on réussit. Je pense que la meilleure manière de garder l'attention, c'est qu'il y a une vraie adéquation en fait entre des besoins et des demandes. À partir du moment où vraiment quelqu'un qui arrive sur Internet a besoin de ce cours de gestion de projet pour faire quelque chose ou a besoin de ce cours de statistiques, le cours n'a pas besoin d'être fait, d'être entre guillemets édulcoré ou qu'on l'ait vraiment fait plein de choses rigolotes. Il faut qu'il corresponde à un besoin et les gens seront prêts à se faire souffrir pendant un certain temps pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et je pense que il y a un piège à vouloir, entre guillemets, capter l'attention par des gadgets ou des petites astuces, et que la meilleure façon de la garder, c'est en répondant à une demande effective, quoi.
Une demande donc de la part du public. Est-ce que ça peut être aussi une demande du milieu, on va dire, professionnel? C'est-à-dire, absolument, est-ce qu'il n'y a pas aussi, oui, ça, c'est-à-dire d'avoir des formations qui sont dispensées en ligne parce qu'elles correspondent à des attentes du monde économique?
Bah, il faut de tout pour faire un monde, hein. Il y a des gens qui viennent avec des demandes de choses plus de termes, de type de vulgarisation. En effet, énormément de la demande du monde professionnel, hein. 80% des personnes qui suivent des MOOC sont engagées dans la vie professionnelle. Donc à partir du moment où les cours répondent à ces attentes, qu'elles soient plutôt d'ordre de développement personnel ou de développement professionnel, la réponse est là.
Comment est-ce que vous choisissez justement à Nanterre les thèmes des MOOC que vous avez développés? Et plus largement, est-ce que vous connaissez un petit peu le profil de votre public, Jean-François Balaudet?
Non, au départ, les premiers MOOC étaient des MOOC expérimentaux sur la base d'un volontariat et de l'expérience acquise par certains secteurs de l'université en matière d'enseignement à distance. Hein, on est parti de là et il se trouvait qu'en philosophie, en histoire, c'était le cas. Ensuite, ça a été la gestion, information, communication. Maintenant, c'est la littérature et l'anthropologie qui donc c'est aussi en fonction de l'appétence et de l'envie de s'investir dans cela que nous avons fait nos premiers choix. Maintenant, je n'ai pas tout dit quand je parlais de diffusion du savoir, et on se pose bien sûr la question du reversement de cette expérience dans d'autres formats. Donc on a parlé un peu rapidement des cours hybrides. Il est vraisemblable que les besoins en formation continue, les besoins exprimés par le monde professionnel peuvent se prêter à, disons, peuvent prêter à des réponses construites en s'appuyant sur des MOOC ou des SPOC, il faudra bien définir les SPOC. Hein,
les SPOC, c'est-à-dire?
Bon, en fait, ce sont des MOOC, mais avec un public défini, donc dans un, disons, avec, ce n'est pas ouvert, mais fermé, et destiné à un public ciblé, donc. Au fond, ça peut être à destination d'étudiants en formation initiale, ça peut être à destination de professionnels en formation continue. Et là, il y a évidemment des choses à penser et à construire. Un MOOC que nous avions, par exemple, produit en 2015 et 2016 sur l'archivage numérique intéresse le monde professionnel. Donc on se dit, tiens, oui, là, il y a quelque chose à faire pour adapter les contenus et l'objet de ce MOOC au
demande qui s'exprime. Ça peut être un vecteur de développement, une voie de développement pour répondre à des besoins de formation professionnelle, formation continue.
Est-ce que ça veut dire que si je suis ce MOOC-là, je peux à l'arrivée avoir un diplôme que je vais pouvoir faire valoir dans ma recherche d'emploi, par exemple?
Alors, pour ce qui est des MOOC, la certification, est, je crois, je n'ai pas consulté beaucoup de CV, mais il est, je crois, maintenant assez courant des personnes en recherche d'emploi signalent avoir suivi des MOOC et obtenu la certification qui va avec. C'est-à-dire attestant qu'ils sont allés, ils ont suivi l'ensemble du cursus, suivi, répondu à l'ensemble des tests de connaissances, et donc il y a une validation, et c'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus souvent sur les CV. Alors, là, j'évoquais la possibilité d'avoir effectivement une sorte de formation en ligne diplômante sur un objet défini dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise, avec un secteur professionnel. Et ça, c'est une voie qui reste à explorer, mais qui pourrait, dans les années à venir, effectivement, être assez féconde, parce que, du coup, on peut dimensionner, en quelque sorte, la réponse que l'on construit avec ces formats-là aux besoins exprimés.
Avoir suivi un MOOC, c'est valorisé dans le monde professionnel, justement, Mathieu Cizel, ça sert à quelque chose aujourd'hui, ou bien on est quand même confronté à des problèmes de certification, hein, comme le disait Jean-François Balaudet?
Alors oui, on est confronté à des problèmes de certification. Dans les enquêtes, c'est vrai qu'on a diffusé, beaucoup de gens mettent sur leur CV des certificats issus de MOOC. Mais on est bien conscient que c'est entre guillemets un signal faible. Pour une raison bien simple, dans les MOOC au sens strict, on a souvent des systèmes d'évaluation qui sont très... Pas très élevé, parce que le but n'est pas de perdre des gens vu qu'on s'adresse à des vastes audiences. Donc très souvent, mais quand les examens ne sont pas surveillés, il ne faut vraiment pas donner plus de valeur à ces attestations de suivi qu'elles nous en ont. Après, il y a des exceptions, donc je préfère ne pas généraliser non plus. Mais c'est sûr qu'il y a une demande forte de la part du public qu'on massifie, entre guillemets, la validation d'acquis. Après, malheureusement, la validation d'acquis, on peut massifier quand on utilise des exercices automatisés, mais quand on veut avoir une validation d'acquis qui soit vraiment profonde avec un examinateur expert, ça passe beaucoup moins à l'échelle que des quiz.
Est-ce que ça veut dire, si je vous comprends bien, Mathieu Cizel, que vous, qui êtes donc l'auteur de ce blog La Révolution MOOC, si vous avez dit au début de l'émission que voilà, le terme révolution peut-être pourrait être un petit peu modifié, en tout cas réinterrogé, mais que vous considérez qu'une formation qui a été validée, qui a été faite par un MOOC, ne peut de toute manière pas avoir la même valeur qu'une formation universitaire classique?
À minima, il faudrait qu'il y ait des examens surveillés, très sérieux, avec éventuellement... Donc, en fait, tout est dans la question de l'examen. À partir du moment où l'examen est sérieux, qu'il y a un examinateur qui est plutôt professionnel, ou en tout cas qui soit autre chose que du quiz, oui, évidemment, on pourrait avoir un niveau de validation. Mais dans ce cas, en fait, l'alignement des planètes pour qu'il y ait le même niveau de validation, il est quand même rarement atteint. Il faudrait des cours qui soient de niveau universitaire avec un examen de niveau universitaire. Et dans ce cas, on est dans les mêmes problématiques que la formation à distance. Il y a beaucoup de formations à distance qui sont validées, qui donne des crédits universitaires. Si on fait une formation à distance et que, parce qu'on est entre guillemets généreux, on l'ouvre au grand public et on fait une petite version délayée, oui, c'est validant, mais c'est rarement dans cette configuration qu'on est.
Guillaume Cardino?
Oui, moi je rejoins tout à fait ce que dit Mathieu Cizel. Moi je pense que, mais c'est très classique, hein, ça fait en gros depuis les débuts de l'industrialisation qu'on se retrouve à avoir ce type de problématique. On a un techno-optimisme fort qui met en scène une théorie du remplacement, où voilà, les MOOC vont arriver, vont remplacer le présentiel. Et ça a été pareil pour tout, et si on peut faire un parallèle qui est peut-être un peu vaseux, mais c'est comme si d'un seul coup, à l'apparition de la voiture, et ça a été le cas, hein, d'ailleurs, des gens disaient, toutes les autres formes de transport vont être éradiquées, il n'y aura plus que des voitures partout, plus de vélos, et même on va même plus marcher à terme. Alors la question se pose quand même de savoir quelle est l'inertie de chaque mode de technique qui se met en place.
Mais je pense que pour les MOOC, c'est la même chose. Est-ce que ça a vraiment fait partie du projet initial, ça, de dire, finalement, un jour, on n'aura plus de locaux, il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus d'université, tout se fera à distance? Ou bien est-ce que ce n'est pas aussi une façon peut-être de revoir ce qu'a été cette révolution annoncée, mais avec quelques années de distance?
Après, on peut regarder les textes d'époque, hein, mais clairement, il y a des gens qui défendaient la théorie du remplacement, qui annonçaient, moi j'assistais à des conférences entières où les gens disaient que ce serait bientôt fini, que de toute façon c'était ringard le tableau noir, qu'il fallait arrêter avec tout ça, évidemment, mais exactement comme dans le cas de chaque innovation technologique, hein, il y a une phase de techno-optimisme très fort, ensuite il y a une phase de déception où on se dit, finalement c'était que ça, et puis au bout d'un moment ça rentre dans les habitudes et ça se mêle à tout un tas d'autres techniques qui sont existantes. La marche n'a pas disparu, même si aujourd'hui on fait du footing parce qu'on n'a plus d'autres raisons de courir, mais enfin, voilà, la voiture n'a pas empêché les individus de marcher, alors qu'il y a des gens qui défendent ça au 19e siècle, plutôt au début du XXe siècle, mais au moment du train, on trouve des gens qui défendent des choses assez incroyables de ce point de vue-là. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment garder la tête froide de ce point de vue-là et avoir conscience que l'enseignement et plus généralement la question de l'éducation, c'est une question qui est pas seulement technique, qui pourra jamais être seulement technique. C'est pas péjoratif vis-à-vis des techniques, mais c'est aussi une question sociale, une question politique, une question économique, une question morale, une question psychologique. La liste n'est pas close et que on ne pourra jamais considérer que un nouvel outil technique va répondre à toutes ces questions d'un seul coup. Ça, pour moi, c'est du flan.
Alors, réaction de Jean-François Balaudet et de Mathieu Cizel. Jean-François Balaudet.
J'ai pas de désaccord avec ce qui vient d'être dit. Comme je l'indiquais pour commencer, on n'a jamais songé une seconde que cela pourrait remplacer les cours en présentiel, mais plutôt venir compléter. Et puis finalement, cette idée d'hybridation est assez intéressante. Il faut travailler ensuite finement pour, effectivement, pour que ça soit pas juste un mot. Je voulais peut-être nous décentrer un petit peu. C'est-à-dire que, au fond, les MOOC, j'ai évoqué ce public indéterminé. En réalité, il est socialement assez déterminé. Mais bon, très bien, ça, c'est des universités françaises, des établissements français produisent des MOOC, ils diffusent la culture scientifique française. Parfait. Il y a des questions plus graves et plus sérieuses qui se posent aujourd'hui auxquelles les MOOC contribuent à répondre. Je pense aux problématiques des universités francophones d'Afrique, qui sont très pauvres, qui font face à des afflux d'étudiants très considérables et qui sont absolument démunis et qui nous demandent, et le réseau de l'Agence universitaire de la francophonie d'ailleurs permet de travailler sur ces questions depuis des années, nous demandent de les aider à produire des MOOC qui vont leur permettre de construire des formations diplômantes pour répondre aux immenses besoins qui sont les leurs. Et donc là, il y a tout un pan de développement qui se fait que je dévoile là en passant, mais qui ne doit pas être négligé parce que en termes de développement de solidarité internationale, il y a aussi des choses à penser, sans parler que derrière il y a aussi des questions de soft power parce que évidemment il y a une poussée forte de MOOC anglophones et il est certainement important, c'est vrai, de défendre la présence dans le monde de la culture scientifique française et finalement le travail notamment avec le continent africain est assez, de ce point de vue assez intéressant.
Mathieu Cizel.
Alors je suis assez d'accord avec le fait que de toute façon les discours un peu de remplacement, c'était beaucoup le monopole des fondateurs de start-up américaines. En France, on n'avait pas on était plus réaliste dans l'ensemble sur le fait que nos objectifs n'étaient pas de remplacer tout par la technologie. C'était plutôt d'ailleurs dans ce type de logique de mutualisons un petit peu des choses qui se font déjà depuis des décennies dans certains pays, de dire on a des communes, donc des communautés d'établissements, des universités qui se rassemblent. Pourquoi est-ce que pour les cours qui sont peu obsolescents, on va pas faire un cours commun, en tout cas dans des logiques d'hybridation? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas partager avec des universités francophones un certain nombre de cours? Donc je pense que c'était dans ce sens-là qu'on voulait faire évoluer les choses au début du mouvement. Et
sachant que la mutualisation, elle peut aussi avoir des ressorts strictement budgétaires. C'est-à-dire quand on mutualise, absolument, on fait des économies.
Absolument. En fait, moi, j'ai une mentalité de fonctionnaire de la Cour des comptes, quelque part, de vouloir, entre guillemets, c'est de l'argent du contribuable, c'est précieux. Essayons de voir comment on peut l'utiliser au mieux sans perdre en qualité des cours. Et au contraire, en augmentant, il y a beaucoup de consortiums d'établissements depuis des décennies aux Pays-Bas, par exemple. Ils disent, on se met entre plusieurs universités. Ce cours-là, c'est moi qui le fais. Ce cours-là, c'est toi qui le fais. Et on mutualise.
Est-ce que ça n'explique pas justement aussi une part de l'inquiétude peut-être de la communauté enseignante Guillaume Carnino, c'est-à-dire d'avoir vu avec l'apparition des MOOC peut-être aussi une façon de gérer les restrictions budgétaires, c'est-à-dire on mutualise, effectivement, du coup ça permet d'avoir une université qui coûte un petit peu moins cher.
Alors, je pense que c'est un argument qui a été mis en avant, mais personnellement, je suis pas certain. Les chiffres que donnait Mathieu Cizel tout à l'heure étaient très éclairants à cet égard. Je suis pas du tout certain que ce soit une si bonne opération budgétaire. Moi, ce que je vis, par exemple, au quotidien, ce sont des universités où on a beaucoup plus de mal à recruter quelqu'un qu'à acheter du matériel informatique. Des écoles, y compris écoles primaires, où on refuse d'embaucher un nouveau surveillant, mais on installe des portillons automatiques avec détection biométrique à l'entrée qui coûtent 3-4 fois le salaire d'un, sans compter la maintenance après, puisqu'il y a des contrats de maintenance qui peuvent être parfois un peu léonin, mais bon.
Donc, s'agissant des MOOC, ça serait quoi? C'est-à-dire, on développe des MOOC, peut-être, au lieu d'embaucher des profs?
Non, je ne dis pas que c'est un jeu à sommes égales, hein. Mais je dis simplement que ça peut être présenté comme une façon d'économiser. Ce qui n'est pas nécessairement du tout le cas. Hein. C'est très juste. Si on veut le faire comme il faut, ça coûte probablement assez cher. Donc à partir de là, je ne suis pas certain que ce soit autre chose qu'un discours de cache-misère, en quelque sorte. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt poser la question de voilà, quel est le type d'enseignement, quel est le contenu de l'enseignement qu'on veut donner aujourd'hui, quelle que soit sa forme. Et là, je pense qu'on est sur des choses qui sont assez cruciales. Et de mon point de vue, là, ça n'engage vraiment que moi, je ne suis pas certain que plus on met les gens devant des écrans, plus on accède facilement à un état d'esprit qui rend possible l'adéquation avec des contenus très complexes. Alors c'est à voir au cas par cas aussi, c'est pas forcément une règle absolue, mais voilà, je pense qu'il y a un collectif qui s'appelle le collectif d'opposition à la surexposition aux écrans, le CAUSE, qui pose ces questions, y compris en maternelle, puisqu'il y a des projets hein, de mettre des tablettes tactiles en maternelle, dans la ville où mon fils va bientôt entrer en maternelle, eh bien voilà, il y a des tablettes tactiles pour des enfants de 3 ans. Et voilà, je suis pas certain que dans cette guerre économique de l'attention, on soit pas en train de préparer de futurs consommateurs, en fait, tout simplement, hein, qui seront addicts à des pulsions de changement en permanence, ce genre de choses. Et je ne suis pas certain que l'émission de l'université, qui a la même racine qu'universelle, hein, soit justement celle-là.
Jean-François Balaudet, vous avez évoqué la massification de l'enseignement en Afrique, mais on est aussi confronté en France à une démographie étudiante qui est importante. On ne va pas rappeler toutes les péripéties, péripéties étant un euphémisme autour de Parcoursup, parce que les MOOC, ça rentre aussi dans votre réflexion comme une façon peut-être de répondre à ces questions de démographie et de place. Ça permet d'avoir peut-être moins de problèmes de place.
Alors, pas les MOOC directement, en disant que les MOOC seraient la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus conséquent, qui est la pédagogie numérique et les productions numériques que nous sommes capables aujourd'hui de développer, qui sont susceptibles de répondre aux besoins qui sont les nôtres. Nous avons, par exemple, à Nanterre, dans notre licence, une offre de parcours établissement qui complète la formation principale dans laquelle l'étudiant est inscrit et qui sont des ressources numériques à base de vidéos. Et donc, on a appris au cours de ces années à produire cela, à introduire cela. Mais il est certain que dans la future offre de formation que nous sommes en train de préparer, le futur LMD, licence master, doctorat, mais licence en particulier, nous allons continuer à travailler sur ces formats hybrides pour répondre aux besoins qui sont les nôtres. Alors, pas tant d'économies, parce qu'effectivement, ça coûte cher de produire des ressources numériques. Il faut payer les enseignants, il faut s'équiper.
D'où l'intérêt d'avoir une masse critique, justement, de gens qui vont utiliser ces MOOC, donc de... Justement, d'élargir en tout cas l'audience au maximum.
Bien sûr. Mais par exemple, il y a des problématiques qui se présentent, qui sont quasiment insolubles pour nous. Comment enseigner les langues étrangères, l'anglais pour ne pas le mentionner en particulier, à l'échelle d'une université comme la nôtre. On a une très très grande difficulté à cela. Et donc, il n'est pas du même coup, inintéressant de réfléchir à la manière dont on peut utiliser des vecteurs numériques pour accompagner du travail en présentiel avec les étudiants, arriver à faire un travail de qualité et effectivement leur permettre d'atteindre les niveaux de langue que nous sommes en droit d'exiger d'étudiants à l'université aujourd'hui.
Jean-François Balaudet, Nanterre, comme d'autres universités, a été perturbée au printemps dernier dans le cadre justement de la contestation de Parcoursup. Est-ce que l'expérience que vous aviez dans les MOOC vous a été utile?
Je dirais plus largement l'expérience donc des enseignements en ligne, dont les MOOC font partie. Oui, parce que nous avons été amenés à utiliser les plateformes numériques pour diffuser à la fois des contenus pédagogiques, mais aussi pour organiser les examens de la session d'examen finale. Donc effectivement, le savoir-faire qu'on avait accumulé en la matière depuis des années nous a été bien utile au printemps dernier.
Avec du coup l'obligation de revoir justement la nature des examens, enfin le contenu des examens et des questions qui étaient posées.
C'est vrai que si vous faites des examens en ligne, si vous organisez des examens en ligne, vous posez différemment la question du contrôle de connaissances et vous êtes plus tenté d'aller vers des sujets qui sont des sujets de réflexion que des sujets de régurgitation brute de connaissances. Donc on peut dire que au fond, voilà, les contextes dans lesquels on s'est trouvé n'ont pas été inintéressants, disons, pour réfléchir à un sujet qui est extrêmement extrêmement compliqué, eh bien, qu'on retrouve derrière les MOOC et plus largement derrière les diplômes nationaux ou diplômes d'université que nous délivrons, dire comment est-ce qu'on vérifie les connaissances, qu'est-ce qu'acquérir des connaissances et qu'est-ce qui permet de valider ces acquisitions. Donc, c'est un vaste sujet.
Voilà, en tout cas, les MOOC ne sont pas morts, mais peut-être ont-ils été ramenés à leur une plus juste place, et peut-être une des conclusions qu'on pourrait tirer de cette discussion de ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'y avoir participé, Guillaume Carnino, Mathieu Cizel et Jean-François Balaudet, émission que vous pourrez réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné, émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Anthony Thomasson.